Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Quand Lamartine pose la question « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» ne pensait-il pas plus qu'aux objets, aux lieux où on a aimé, vécu, souffert, ou encore aux lieux où on sait que d'autres ont aimé, vécu, souffert. Voici un ouvrage écrit par Alain Monnier qui illustre de manière magistrale ce sentiment que les lieux sont porteurs d'histoire, d'émotions et contribuent à créer un patrimoine immatériel commun à nous tous et qui fonde notre société. Cet ouvrage s'attache à visiter 7 lieux. Il est édité chez Climat. Il s'intitule « L'esprit des lieux » et je suis très heureuse d'accueillir son auteur. Alain Monnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, la question obligatoire, l'incendie de Notre-Dame, Alain Monnier, ne vous a-t-il pas doublement frappé, et par le drame même, bien sûr, mais par la concomitance avec ce que vous écrivez? Non, je ne vous accuse pas d'avoir mis le feu à Notre-Dame.
Merci. C'est vrai, donc l'incendie de Notre-Dame est survenu une dizaine de jours après la sortie du livre. Mais ce que j'en retiens surtout, c'est que j'ai appris ça, j'étais dans un aéroport et j'ai été accablé et saisi d'effroi. Et comme peut-être, je ne sais pas, c'est parce que j'avais écrit ce livre, je me suis dit, mais tu es vraiment touché au-delà, bouleversé au-delà du raisonnable, et puis c'est toi qui es comme ça. Et finalement, un peu de temps après, quand j'ai vu que cette effroi était partagé par énormément
beaucoup de monde.
Ça m'a rassuré et ça m'a consolé un petit peu de dire voilà, on est quand même tous autour de ça et cette émotion, elle est partagée.
Il y a quelque chose qui en ressort. Oui, parce que c'est vrai que nous, c'est, mais pour nous chrétiens, c'est un lieu de foi, de prière et on a ce sentiment, mais en même temps, on a tous ce sentiment d'appartenir à une chaîne humaine. Quand même, c'est un lieu porteur de mémoire, d'histoire, de la grande histoire même. Hein. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Oui, de la grande histoire. Et puis, je crois que c'était un lieu où chacun peut s'attacher de façon différente. Moi, je sais qu'à un moment donné, je m'y étais intéressé autour de la construction des cathédrales. Mmh. Et puis, je crois qu'on a tous, peut-être pas tous, mais que beaucoup d'entre nous ont des choses qui se rattachent à Notre-Dame. Moi, mes revenus, chose que j'avais oubliée, je crois que quand j'étais en CM2, donc à l'école primaire, on avait une après-midi par semaine, bibliothèque. Et donc, on allait au bureau d'un instituteur et on choisissait des livres de la bibliothèque verte. Et il y en avait un qui était donc Notre-Dame de Paris en 2 volumes, qui était écrit tout petit, de Victor Hugo. Et je me rappelle qu'on faisait tout pour échapper à ce livre, en se disant, on va jamais lire ce truc-là. Et comme quand on arrivait au bureau de l'instituteur, il n'y avait que le choix entre 4. Selon comment ça tombait, si on avait lu les 3 autres, voilà. Et voilà, bah, c'est des petits souvenirs. Mais du coup, ça veut dire que ça fait partie de notre mémoire, oui. Que ça fait partie de nous.
Oui, exactement. Et puis, en plus, grâce ou à cause de ce drame, moi j'ai appris que c'était Victor Hugo qui avait œuvré pour que Notre-Dame soit réparée. Ah, ça, vous l'avez peut-être pas su.
Ben,
moi non plus. Et il paraît que c'est lui, en écrivant ce livre, et qui a redonné un élan nouveau. Oui,
d'accord.
Voilà. Oui, parce qu'il paraît que Napoléon n'aimait pas du tout Notre-Dame. Il avait même mis des tentures lors de son sacre pour cacher ce qu'il n'aimait pas. Voilà. Alors, revenons à l'esprit des lieux. C'est le titre, donc, de votre ouvrage. De quoi parlez-vous quand vous parlez de l'esprit des lieux?
Alors, je parle, donc, c'est un livre d'expérience, plus que purement intellectuel, ou même si, bien sûr, on tire des conclusions. Je parle de cette expérience qui fait qu'on se retrouve parfois dans un lieu et que... avec un petit effort qu'on peut faire en se disant, bon, ici s'est passé un événement historique assez important ou quelque chose, on peut se dire, ça s'est passé là, vraiment là. Je prends par exemple l'exemple de Rivesaltes, où il y a des convois de juifs qui sont partis de là, et vous avez un petit chemin avec cette voie ferrée qui est aujourd'hui pleine de broussailles, qui est à l'abandon.
Et votre récit fait froid dans le dos, on y est,
voilà.
Vraiment.
Et j'ai cette empathie un petit peu, c'est presque comme une litanie où je me dis, mais ces gens, ils étaient vraiment là sur cette pierre, ils attendaient debout, et puis le vent était le même, et puis le décor était le même.
Et
en me répétant je rentre en voisinage avec ces gens du passé.
Oui.
Et c'est cette expérience que je reconduis dans plusieurs endroits. Enfin, tous les endroits ne marchent pas, on en parlera peut-être après, mais qui fait que d'un coup, on a ce cousinage avec les temps du passé, qu'on mélange un peu le présent avec les temps anciens. Voilà, c'est de ça qu'essaie d'évoquer le livre, parce que je suis aussi persuadée que c'est une expérience qui est partagée par...
Beaucoup. Mais justement, alors je me suis dit, d'abord, c'est vrai que chacun a ses propres lieux.
Exactement.
Hein, bien sûr, c'est à la fois intime, même si ça peut être universel, mais il y a un savoir. De toute façon, il y a des personnes, vous les amènerez à Rivesaltes, si on ne leur raconte pas l'histoire, ils n'y verront rien.
Oui, c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a comme des prérequis pour que cette expérience marche. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des savoirs.
Oui.
Donc ce sont des lectures, ça peut être des discussions avec un ami érudit, ça peut être pas mal de choses, mais il faut arriver quand même avec un peu de matière. Ensuite, je crois qu'il faut que le lieu ait gardé une certaine
authenticité.
Oui,
simple.
Voilà, peut-être que ça sera pas tout à fait pareil, mais il faut qu'à un moment donné, on puisse se dire, la rivière, de toute façon, elle coulait là, cette petite forêt ou ce petit bois était là.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est cette volonté personnelle.
Oui, parce que ça demande à la fois d'imagination, de l'empathie. Tout à l'heure, vous avez prononcé ce mot et vous n'êtes pas dépourvu d'empathie, alors vous-même. Hein. De l'empathie, vous êtes là, vous imaginez les lieux et vous mettez à la place des gens, parce qu'il y a les gens.
Voilà, c'est cette expérience qui fait que je crois qu'on peut. Enfin, cette expérience me permet quelque part de ressentir ce que des hommes, mes frères, à des siècles de distance, avoir une proximité. Et je pense que je suis aussi proche de ces hommes à des siècles de distance que d'un contemporain d'aujourd'hui qui vivrait par exemple au Malawi ou je sais pas où, dans des contrées que je ne connais pas. Et que. La représentation que je m'en fais est aussi juste ou aussi erronée entre cet homme du passé que mon contemporain d'un lieu inconnu.
Oui, oui, certainement. Ce qui est frappant à deux ou trois reprises, je pense, c'est que quand vous revenez sur les lieux quelques temps plus tard, tout a été bien rangé, bien réparé avec des panneaux, etc. Et à ce moment-là, ça ne marche plus.
Oui, alors
quand c'est aseptisé ou...
C'est-à-dire, c'est typique du camp de Rivesaltes qui a été à l'abandon pendant des années. Donc, et quand je l'ai découvert, c'était des hectares et des hectares de baraques à demi écroulées, où il n'y a personne, vous pouvez errer là-dedans. Et il vous semble justement que d'un claquement de doigts, les fantômes du passé peuvent sortir. Et j'y suis retourné donc, parce qu'il y a eu un mémorial qui a été inauguré en 2015. Alors, je prends mes précautions parce que ce mémorial est vraiment très bien fait. Esthétiquement, il est sobre. Ce qui est exposé dedans, pédagogiquement, c'est parfait. Et donc, je veux dire, je ne veux pas être critique par rapport à ce beau travail. Sinon, la critique qu'il aurait dû faire être fait bien avant. Et ça, c'est autre chose.
Et d'autre part, on aurait dû en parler bien avant, parce que vous notez quelque chose que moi, je partage avec vous, c'est-à-dire que je n'en avais jamais entendu parler.
Oui, alors, c'est en fait de là que vient l'idée d'écrire sur Rivesaltes et puis plus loin le livre, c'est qu'effectivement, donc, je passe mon enfance à Narbonne, qui est à 30-40 kilomètres de Rivesaltes. Je fais des études, comme chacun de vous, au lycée, normal, et pas un professeur d'histoire ne m'a jamais dit « Mais Auschwitz commence à côté de chez toi. » Donc, Auschwitz, c'est dans les terres lointaines de Pologne. Enfin, et donc, je connaissais le camp de Rivesaltes pour le volet espagnol, la Retirada. Par contre, j'ai découvert, je devais avoir une quarantaine d'années, que de Juifs, 41 à 42, ça a été le plus grand camp de rassemblement des Juifs de zone libre qui partaient ensuite. Il y a eu 9 convois qui sont partis à Drancy et de Drancy à Auschwitz.
Oui.
Et là, je me dis quand même, voilà.
Oui.
Et pour revenir à votre première question sur le mémorial, bon, qui est parfait, il n'empêche que je suis revenu dans le mémorial, je le juge parfait, mais cette émotion brute où on errait dans ce camp presque sans rien, n'est plus la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois le parcours de gens et on me le décrit très bien.
Oui.
Avant, j'étais avec eux. Quoi.
Oui, avant, c'est notre imagination. Tandis que là, on n'a plus besoin d'imaginer. Tout est là, tout est prêt à digérer. Je me suis posé la question, finalement, Par rapport à ça, est-ce que justement des lieux historiques, c'est un lieu historique, oui. Est-ce qu'il faut vraiment les aménager? Parce que là, quand vous parliez de prérequis tout à l'heure, bon, parce que comme vous, et j'ai noté, il y a les photos, il y a les films, vous avez parlé de Robert Capa, d'Arthur London, d'Hemingway, de Kessler, je me dis, c'est vrai que tout cela, nous ont construit tout un univers. Et on s'y est, c'est quand même...
Oui, alors après, moi je pense quand même que ce mémorial a de grosses vertus, c'est-à-dire que pour peut-être une partie des gens qui sont vraiment intéressés, qui ont lu ou qui font cet effort un petit peu intellectuel
ils
de
n'ont
se
pas
rapprocher...
Besoin de... Oui, voilà.
Non. Voilà, n'ont pas besoin. Mais après, je veux dire, ça ouvre aussi quand même ce qui s'est passé à des gens qui n'ont pas fait cet effort jusque-là et qui du coup repartent enrichis. Et quand même, quand je visitais le camp... au tout début, où il n'y avait aucune inscription, aucun nom, ça me manquait aussi, c'est-à-dire que les noms des gens, et après je les ai recherchés au cimetière de Rivesaltes, enfin, etc., les noms des gens sont importants.
Mais que vous trouvez à Oradour, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes allé à Oradour.
Non, je n'y ai pas été, non.
C'est poignant parce que chaque maison a le nom des habitants et l'âge. Et c'est un lieu absolument poignant. Hein. Oui, oui. Oui, c'est important, vous avez raison. Parce qu'on imagine leur vie. Ils ont vécu
oui,
là.
D'un coup, c'est un individu qui... on a son nom, son prénom. Voilà, c'est plus la masse des gens. Quoi.
Absolument. Et alors, vous êtes là, donc seul. Et j'ai remarqué quand même qu'il vaut mieux que vous soyez seul. Hein, il vaut mieux, je crois,
oui.
Pour que l'imagination...
Pour que ça marche.
Pour que ça marche. Ouais. Et vous êtes seul, vous imaginez la vie quotidienne, le froid, la faim même. Et moi, j'aimerais... Est-ce que vous pourriez me lire un petit passage? C'est à la page 40, au milieu, page 40. Il suffirait d'un froissement du temps, et puis vous arrêtez peut-être à la petite fille, voilà. Il suffirait d'un froissement. C'est au milieu de la page 40.
Ah oui, je m'arrête à la petite fille, d'accord.
Voilà.
Il suffirait d'un froissement du temps pour qu'ils arrivent un à un, avec leur manteau usé, leurs chaussures en lambeaux, raccommodées avec des herbes séchées. Cette petite fille aux cheveux noirs et courts, engoncée dans un caban, des gens trop petits et tellement râpés, malgré toute l'attention qu'elle consacre à ne pas l'abîmer, elle tient la main de sa mère et s'avance au milieu des baraques. Elle ne pose plus de questions. Elle sait qu'elle n'aura pas de réponse et que sa gentille maman s'exaspère de ne jamais pouvoir répondre, de ne jamais pouvoir parler du lendemain. C'est pourtant le privilège insensé des parents que de dire l'avenir, de donner de l'espoir.
Oui, en fait, on peut... Plus, vous personnalisez des individus. Vous imaginez qu'il y a telle personne, et il y a eu des petites filles. Vous imaginez une jeune femme, une jeune épousée, et le déchirement de son mari qui dit « Elle est là, je ne peux rien faire. »
Je crois que la proximité, elle vient de ces sentiments. Je crois qu'à travers les siècles, face à des situations extrêmes, on va éprouver les mêmes peurs ou les mêmes joies. Et finalement, ce rapprochement avec ces gens du passé se fait par ces sentiments qui me semblent intemporels.
Oui.
Et c'est comme ça que je rentre un petit peu dans l'histoire, dans leur histoire.
Bien sûr.
Ou que je les accompagne.
Bien sûr, il n'y a pas de raison. Ils ont éprouvé les mêmes sentiments, les mêmes émotions.
Je suis sûr qu'on me met aujourd'hui dans ce camp de Rivesaltes, dans les mêmes conditions. Je suis leur frère de sentiments, quoi. C'est sûr.
Oui. Oui, et ça, c'est ce qui... Beaucoup de gens n'imaginent pas ça, ne se mettent pas à la place d'eux. Alors, vous avez choisi, en fait, sept lieux. Vous allez me dire comment vous les avez choisis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes approches. Même à un moment donné, vous vous adressez à un personnage. On en parlera, j'espère qu'on aura le temps. Mais on ne pourra pas parler de tout, évidemment. Différents éclairages, et ça fait... à la fois la surprise pour le lecteur et puis le plaisir, l'intérêt. Parce que vous avez une manière chaque fois différente de raconter.
Oui, alors en fait, donc, les lieux parlent de thèmes différents qui sont sous-tendus. Donc, bien sûr, Rivesaltes, c'est les déportés, les familles, les gens déplacés. Enfin, voilà. La Villa Médicis, ce sont les arts, la civilisation triomphante. Bon, chaque thème.
Pardon, je vous interromps, Alain Mounier. Et même, et à l'intérieur de chaque, il y a vous aussi votre réflexion. Dans la Villa Médicis, vous vous interrogez sur votre métier ou art d'écrivain. C'est encore autre chose. Hein. Chaque fois, il y a quand même une autre réflexion intime.
Voilà, en fait, l'intime est venu un peu par accident, je crois. J'en dirai un mot après, mais pour répondre vraiment, le choix, c'était donc des thèmes différents qui me permettaient effectivement d'aborder des choses différentes. Ensuite, je voulais que l'expérience avec les lieux soit différente. C'est-à-dire, Rivesaltes, c'est presque le hasard. Je me pose en avion, je redécouvre le camp, etc. Le chapitre sur la Révolution française, c'est quelque chose qui, depuis tout petit, m'intéresse. J'ai beaucoup lu, enfin... Je ne suis pas historien, mais
oui,
ça m'a intéressé.
Oui, c'était glorifié, la Révolution française.
Et donc, je vais des fois à Paris, ou même quand j'étais étudiant, en quête des lieux. La Karl Marx Allee, je pars avec une idée de Berlin, et puis je me retrouve ailleurs. Voilà. Donc, il y a une expérience, une approche des lieux qui est différente de thème en thème. Et après, effectivement, sur le style, c'est aussi... c'est plus l'écrivain qui parle, c'est-à-dire que c'est de donner une coloration différente à travers un style et une approche différente pour faire des ruptures et que la lecture soit plus agréable pour le lecteur.
Oui, et c'est effectivement, c'est très agréable. Justement, par l'évocation des lieux, de ce que vous ressentez, et après les questions que vous posez, vous parlez de la chapelle des Carmes et de la Révolution française. Et c'est vrai que, bon, mais finalement, vous posez des questions justes, parce qu'en définitive, la population avait des raisons de se révolter, et en même temps, il ne faut pas se leurrer, il y a eu des massacres abominable. Voilà. Et justement, avec le recul, on peut faire la part des choses. Et chaque fois, on le voit, c'est ce que vous faites aussi. Sauf que pour le camp de Rivesaltes, non. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Oui. Et donc, vous voyez aussi l'envers de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire faite par les vainqueurs.
Oui, typiquement, c'est pour la Révolution française, effectivement, donc je pars de cette expérience où j'avais un maître d'école qui était fanatique de la Révolution française, qui a débordé les cours, bon, et enfant dont tout le monde se laisse embarquer. Après, je fais le clin d'œil, je suis né un 14 juillet, donc je dis peut-être que ça va voir aussi.
Et vous avez cru que cette fête nationale était pour vous?
Voilà, j'ai cru que les feux d'artifice et le défilé, au moins jusqu'à 4 ou 5 ans, c'était pour mon anniversaire. Après, je suis revenu à la réalité. Après, je lis et puis je découvre l'histoire des massacres de septembre. Je vois bien la période de la terreur, enfin bon, tout ça. Et petit à petit, voilà, avec l'âge et avec
les
lectures...
Vous faites la part des choses.
Mon empathie change aussi un peu de place, sans oublier que ça part de quelque chose de réel, qu'il y avait une misère, qu'il y avait des inégalités flagrantes, etc. Mais en même temps, donc, il y a des esprits éclairés et généreux, je pense, qui provoquent cette révolution. Les Condorcet, Seyès, Mirbeau. Mais en même temps, c'est toujours la France la plus violente et la moins... qui commet les exactions. Ouais. Et c'est toujours cette vague qui l'emporte sur les gens qui ont la générosité.
Ouais, quoi. Tout à fait. Et alors justement, en faisant la part des choses, vous dites quelque chose de très vrai. Vous soulignez que cette dualité, quand on voit, on dit oui, bon, ben ça, d'accord, ça fallait, mais en même temps, et que ça complique la vie, toujours. Vous le dites,
oui,
à un moment donné.
C'est-à-dire que... On serait beaucoup plus à l'aise
si on allait franco.
S'il y avait le bien et le mal, une frontière, etc. Ouais. Or, les choses sont toujours, les frontières sont toujours floues et il y a des bonnes choses des deux côtés.
Absolument.
Voilà, et on
comme dirait
pas de
Sempé,
là,
rien n'est simple, tout se complique.
Tout se complique, voilà.
Mais alors, aussi, à chaque fois, on voit que vous avez besoin de voir les lieux, seuls, de préférence. Et par exemple, le couvent des Carmes, bon, il y a un graffiti, il y a comme une trace de sang.
Oui, c'est ça, qui a été conservé, oui.
Oui, et on voit pourquoi naît l'émotion, et on comprend. Vous arrivez à faire partager au lecteur, enfin en tout cas, moi lectrice, c'est une petite pièce simple, intacte, il y a la solitude, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de...
Oui, il faut effectivement, je crois que cette expérience, enfin, pour ma part, fonctionne si je suis seul, si les lieux sont assez préservés. Typiquement, la place de la Concorde où était élevé l'échafaud, oui. Où a eu lieu l'exécution de Louis XVI et puis 6 mois plus tard de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, vous pouvez vous mettre là, vous pouvez, mais je veux dire, c'est un défilé de voitures et de motos. C'est impossible de
d'enlever l'actuel.
Oui, enfin, il est trop. Voilà, c'est impossible. Oui. Il faudrait, je sais pas.
Oui. Bien sûr.
Ça marche pas là. Oui. Quoi, c'est clair.
Oui. Et puis même, il me semble que même en enlevant les voitures la nuit, on n'aurait pas la même. C'est devenu trop connu, trop.
Oui, sans doute.
Oui, là, trop en vue.
Sans doute, il y a par exemple les guichets du Louvre, vous savez, donc ces trois portes qui sont oui. de l'avenue qui passent devant l'ancien palais des Tuileries, enfin devant aujourd'hui la pyramide, où donc Marie-Antoinette, déguisée en soubrette, va se cacher dans les guichets pour laisser passer des choses le soir où elle s'enfuit des Tuileries pour la fuite de Varennes. Et elle sort des guichets, au lieu d'aller sur la gauche où l'attend Fersen dans le carrosse, elle se trompe parce qu'elle n'est jamais allée dans ces ruelles-là, elle n'a jamais quitté son palais. Elle va à droite avec quelqu'un qui l'aide et elle perd une heure à retrouver le truc. Oui. Donc cet endroit des guichets, j'y suis passé, vous dites, elle était là. Et donc vous pouvez remettre en marche, oui, la machine était là. Mais là, c'est pareil, il passe tellement de voitures que vous n'avez pas le...
La même émotion.
Et ça ne marche pas, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous abstraire du présent.
Oui. Également, donc, et là, vous êtes allé également sur un autre lieu, la chapelle expiatoire. Là aussi, alors, silence, paix, sérénité. Et encore une fois, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, cette difficulté de prendre parti quand on voit les excès. Et puis ces idées définitives, mais on l'a vu avec les mers rouges également, on l'a vu avec...
Oui,
et on se dit qu'en vous lisant, je me suis dit, mais finalement, l'histoire ne nous apprend rien.
Oui, c'est un perpétuel recommencement.
Ouais.
C'est ce que disait Nietzsche.
Oui, c'est ça. Alors...
L'éternel retour.
Oui, alors... Je ne sais pas, on va pas voir tous les cas, tous les 7 lieux. Bon, évidemment, il y a le Mont Valérien. Et là, alors là, chose intéressante aussi, c'est que vous vous adressez directement à quelqu'un. Alors d'abord, je me suis dit, mais qui est-ce? C'est quelqu'un qui a appartenu au réseau célèbre, au réseau de résistance qui s'appelait le réseau du Musée de l'Homme. Et en fait, c'était un homme jeune, mais un homme, moi je ne connaissais pas son parcours. Et j'étais totalement, vraiment étonnée, stupéfaite de voir cette vitalité qu'il y avait en lui.
Et donc, il s'agit de Boris Vildé.
Voilà.
Et effectivement, là, c'est un lieu, le Mont Valérien, où je suis allée, au début, non pas pour le lieu, mais en quête de Boris Vildé.
Pourquoi lui?
Parce que j'avais lu, je crois que c'était chez Arléans en 98, le journal de Boris Vildé. Donc, ses derniers jours de prison. Et puis, il y a une approche assez... impressionnante, quoi, de ce qui se passe, avec de la hauteur, une forme de mysticité. Enfin, c'est un journal qui m'avait marqué. Et voilà, et donc après, je suis reparti vers le Mont Valérien, un peu en quête, ou pour en savoir plus, ou pour me rapprocher de cet homme dont le journal m'avait vraiment impressionné. Quoi.
Oui.
Et en même temps, il m'impressionne parce que je suis à des années-lumière de lui, ce que je raconte un peu dans le récit.
On en parlera, parce que ça aussi, ce sont des réflexions, là, pour le coup, tout à fait personnelles. C'est vrai, ce que vous mettez en avant chez cet homme, c'est assez passionnant. Et c'est vrai qu'il faudrait que les jeunes lisent sa vie, soient au courant. Est-ce qu'on le fait dans les livres d'histoire? Ça m'étonnerait.
Non, parce que après, il y a tellement de parcours différents. Moi, c'est un parcours.
Oui, alors bon, il a franchi plusieurs frontières. Il a quitté la Russie, l'URSS, il est allé en Estonie, ou je ne sais plus.
Estonie, puis en Lettonie, après en Allemagne.
Puis en Allemagne, chaque fois il fuit.
Il lutte un peu contre le nazisme, après il fuit.
Oui, et s'engage chaque fois politiquement.
Voilà, il arrive à Paris, il s'inscrit à la Sorbonne, il apprend le japonais, enfin je veux dire, c'est un homme, l'allemand, il le connaissait. Et il rentre au Musée de l'Homme, c'était Paul Rivet, je crois, le directeur. avec l'aide d'André Gide.
Il y avait Germaine Tillon aussi.
Oui, il y avait Germaine Tillon, voilà. Oui. Et donc, c'est un parcours éblouissant.
Oui, oui très
il
jeune.
Il est naturalisé français en 1936. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Et donc, c'est presque... C'est presque c'est presque trois vies en 30 ans que cet homme parcourt. Quoi.
Oui,
donc, c'est
tout à
étonnant.
Fait. Et c'est vrai que cette acceptation de la mort, cette absence de peur, ce don de soi-même, c'est assez étonnant. Alors évidemment, il y a une quête spirituelle chez lui, parce qu'à un moment donné, il écrit l'amour parfait qui ne se trouve que dans la mort.
Oui, et il y a aussi à la fin, donc, il y a eu un personnage qui s'appelle l'abbé Franz Stock,
ah oui.
Qui est donc un aumônier allemand
qui
accompagne tous les fusillés du Mont Valérien, et je crois qu'il y en a 1500, enfin bon, c'est énorme. Et donc, cet abbé a tenu un journal, et quand il parle du passage où il accompagne Boris Vildé et ses compagnons du...
Et qui a été le dernier, il a voulu être le dernier.
Oui, voilà, du Musée de l'Homme, il dit que ces gens ont une foi, mais peut-être, enfin, une foi, ils se rapprochent de Dieu dans ces moments-là, mais une foi très, je veux pas dire de... assez simple, enfin, très classique, on va dire, alors qu'il dit, Boris Vildé a aussi la foi, mais c'est une foi d'une mysticité étrange. Enfin, oui. Lui-même est très touché
ce don de lui-même.
Ce don de lui-même cette intellectualisation de cette mysticité. Voilà. Et voilà, donc je reprends ça à la fin
parlez.
Je parle de l'abbé Stock.
Et vous dites, il dit, cette mort sera triomphale, non parce qu'il aura atteint l'indifférence ou aura vaincu quelque chose, mais parce que le condamné se trouve au point le plus incandescent de son désir de vivre. Alors, évidemment... vous alliez dire autre chose.
Non, voilà.
Évidemment, on se dit, mais qu'est-ce que je ferais à sa place? On se pose tous en lisant ça, bien sûr. Alors vous analysez, vous faites preuve de beaucoup de modestie, peut-être trop d'ailleurs. Bon, c'est vrai que l'histoire de l'engagement politique, de l'engagement tout court dans ces domaines, ce n'est pas peut-être...
Je crois que les gens de notre génération se sont posés forcément cette question. Les gens nés après-guerre se sont forcément posés cette question un jour ou l'autre. Qu'est-ce que j'aurais fait si à 20 ans, j'avais été confronté
à
ça?
On a connu que la paix, nous. Hein.
Oui, ouais. On est une des très rares générations, je pense, qui avons traversé à peu près jusqu'à présent la vie sans se confronter à la guerre en direct. Et donc, cette question, et j'essaie de l'aborder de façon un petit peu, peut-être pas scientifique, mais en tout cas très, très logique, en essayant d'éliminer les hypothèses.
Oui,
voilà. Et à la fin, quand je dis, bon, après, et je reprends des paroles de Primo Levi, qui dit, de toute façon, dans ces choses si extrêmes, on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas savoir ce qu'on sera.
On ne sait pas
ce qu'on sera. Et d'ailleurs, l'exemple est plein de... Enfin, j'en cite quelques-uns, de gens qui étaient... conditionné familialement, socialement pour être d'un côté et qui se sont mis de l'autre et l'inverse. Voilà. Et quand on regarde tous ces noms, on ne peut être que humble par rapport à tout ça.
Alors, c'est vrai aussi qu'on peut s'interroger sur Boris Vildé, parce que quand il dit « la vie est ennuyeuse sans danger
»,
bon, alors là, autant je comprends ce don qu'il a, cet altruisme, cette générosité, mais je me dis, c'est quand même un casse-cou, il aime ça aussi.
Alors, moi, je cite ces phrases parce qu'elles m'ont beaucoup étonné, il y en a une autre aussi qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il demande pardon à sa femme, Irène, non pas d'avoir pris ses risques et tout ça, mais de ne pas l'avoir entraînée avec lui.
Oui.
Et là, chaque fois, je dis, alors sur ces deux idées fortes, enfin, très, très étonnantes,
là, vous,
je dis à quel point
je suis
l'antithèse, que je ne le comprends pas. Quoi.
Oui.
En même temps, donc, on peut ne pas comprendre et admirer.
Oui, 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 mais c'est un fait qu'il y a, un comportement, des propos qui sont étranges parce qu'il a tenu, un journal, une sorte de... en prison.
C'est ça, et qui a été publié. Donc, c'est ce journal qui m'a rapproché, enfin, qui m'a fait découvrir d'abord cet homme et puis qui est assez fascinant. Quoi.
Oui. Alors, on se dit aussi, finalement, à quoi bon, on peut se dire, Mais ce que vous dites, parfois le pragmatisme doit savoir s'effacer devant les élans qui le dépassent. C'est vrai que, moi je ne me sentirais peut-être pas avoir ce courage, mais c'est vrai qu'on est admiratif en même temps.
Oui, on est admiratif et en fait c'est un petit peu la fin de ce chapitre où je dis, est-ce qu'on a... Et la réponse, en se posant la question, ça veut dire que la réponse est plutôt non. Est-ce qu'on a été digne de l'engagement de ces hommes? Est-ce que la société qu'on a fabriquée et dans laquelle on vit aujourd'hui méritait tant de sacrifices de ces hommes-là? Et donc, évidemment, quand je pose la question, ce que je ne le dis pas, mais ma réponse est non, on est indigne de ce que ces gens-là. Et est-ce que ça valait la peine qu'ils fassent tout ça pour ça? Et en même temps, je dis, mais je suis un épicier quand je dis ça, quoi. On fait pas des pesées. Voilà, à un moment donné, c'est l'instinct qui l'emporte. Et c'est pas des réflexions un peu stériles, plus tardives.
Et puis
quoi.
Peut-être aussi qu'il y avait le nazisme.
Oui,
il y avait,
bien sûr,
voilà,
bien
il y avait
sûr.
Tout
non,
ça.
Mais voilà. Après, je pose la question parce que
sûr.
Je peux pas m'empêcher. Quand je suis au Mont-Valérien ou ailleurs, je peux pas m'empêcher de me dire.
Oui. Alain Monnier, je vous propose une pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi.
Oui, j'ai pris Leonard Cohen, In My Secret Life, parce que Leonard Cohen est quelqu'un que j'écoute en permanence quand j'écris.
D'accord, on écoute. In my secret life. In my secret life. In my secret life. My secret life.
I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. No one inside, and we're still making love in my secret life. My secret life. secret land.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Alain Monnier qui est venu nous parler de son ouvrage « D'esprit des lieux » édité chez Climat, Esprit des lieux, 7 lieux qu'Alain Monnier a choisi, 7 lieux très différents ô combien, mais qui nous parle, qui lui parle d'abord, qui lui parle beaucoup, qui nous parle à nous qui... par nos lectures, l'enseignement que nous avons reçu, l'imagination aussi, il faut de l'imagination et de l'empathie, et Alain Monnier n'en est pas dépourvu, nous évoque, je dirais, on pourra en parler à la fin peut-être, de cette appartenance que nous avons à toute cette chaîne humaine.
Oui, enfin, c'est effectivement ce qui, j'espère, ressort du livre, c'est-à-dire que à se confronter au passé, on se retrouve donc à cousiner avec les temps anciens et on se retrouve dans le charroi de l'histoire et c'est cette expérience qui est riche parce que du coup on se sent dans le fleuve des générations et de l'humanité. Enfin moi c'est ce qui me
et d'ailleurs vous l'avez ressenti plus fortement encore dans la grotte de New. Alors, il me semble.
Oui, c'est-à-dire que la grotte de New, donc c'est une grotte qui n'est pas loin de chez nous, qui est en Ariège, donc qui est une grotte ornée qui se visite, donc par petits groupes d'une 15 ou 20 personnes, je ne sais plus. Et c'est une expérience des lieux différente. Donc, on s'enfonce sous terre, on marche à peu près une trentaine de minutes et on se retrouve dans ce qu'on appelle le Salon Noir, une immense pièce... au cœur de la montagne, donc avec un isolement parfait, et on comprend bien que notre société de consommation n'est pas arrivée jusque-là. Et donc c'est une expérience du lieu en se disant, bon, ces hommes préhistoriques qui sont venus peindre les animaux sur les parois, ils étaient là, et puis on comprend bien que là, on en est sûr que le lieu n'a pas bougé. Par contre... il n'est plus possible, comme le chapitre sur la Révolution ou sur la Résistance, de s'identifier à des gens. Parce que finalement, la préhistoire, ce sont une représentation de groupes d'individus, mais on n'a pas le nom d'un seul. On ne sait pas s'il était amoureux, s'il avait un projet politique. Enfin, je dis n'importe quoi, mais enfin, je veux dire, on n'a rien qui s'attache à l'individu. Donc, l'expérience qui consiste à être à la place d'eux ou en substitution... d'un vrai individu qui a vécu ça à l'époque, ne marche pas. Par contre...
Et pourtant, il s'est passé quelque chose.
Voilà. Et pourtant, donc, du coup, je reste quand même dans cette façon d'être en me disant, mais ils étaient là, enfin, ils ont fait ça. Et du coup, il y a un rapprochement, et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier aussi, un peu avec l'espèce. C'est-à-dire que j'ai le sentiment... C'est bref tout ça, hein, c'est pendant quelques secondes ou quelques minutes, de savoir d'où je viens.
D'une appartenance,
de faire partie de l'espèce.
La chaîne humaine.
Voilà, de l'espèce humaine. D'avoir cette proximité animale à travers ses dessins, chose que dans ma vie, ma part animale me semble complètement enfouie, même si à mon avis, elle nous pilote, elle nous guide beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. Il n'empêche que ce n'est pas quelque chose que je ressens habituellement. Et là, dans ce lieu, effectivement... je fais partie de l'espèce et j'ai un rapport avec les origines, la terre, les animaux, qui m'étonnent moi-même.
Oui. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas... Vous imaginez, vous voyez votre fille. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est-à-dire qu'à travers ça, donc, il y a eu des explications sur la grande question, pourquoi il venait là? Pourquoi il s'enfonçait dans la terre? Quel était le sens de ces dessins? Donc, les préhistoriens émettent des hypothèses, mais qui sont que des hypothèses et que rien ne s'est vérifié à ce jour. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'était pour faire des...
Incantatoire
à la chasse, oui, etc. Et puis, donc, il y a un préhistorien très connu ici, M. Clotte, qui a été un peu à l'origine de tout ça, qui avait une théorie sur le chamanisme. Voilà. Et donc, à un moment donné... en m'immergeant dans ce salon, et donc puisqu'on n'est que 15, pareil, je me mets un peu à l'écart des explications, voilà, arrive cette petite expérience que je raconte dans le
voilà, livre. À la page 195, et oui, vous êtes tout seul, vous êtes assis sur un siège de pierre érodé. Allez-y.
Alors, je retourne m'asseoir sur mon siège de pierre érodé. Ma torche éclaire par hasard la petite Anna, dont la silhouette se projette sur la paroi. Une ombre chinoise, petite comme une magdalénienne. Ma pensée s'échappe encore, vagabonde, s'éparpille et finit par aller se poser tel un papillon dans une autre salle, plus petite, à peine plus éclairée, au moment singulier où la sage-femme pose un bébé dans mes bras, ma fille. Elle est là, juste sortie du ventre de sa mère, d'un au-delà mystérieux. Elle n'existait pas, sinon dans nos rêveries, et voilà qu'elle est devant moi et que je la regarde intensément. Elle est sortie de derrière la paroi, magiquement. Je lui dis à voix basse, « Alors c'est toi ?» Elle a un petit habit blanc, de longs cils. Elle est une inconnue. Elle va devenir ma fille. Il faut faire connaissance. Je murmure, « Je suis ton père. Tu es très jolie. » Comme s'il fallait que je me présente à mon tour. La surprise ne doit pas être moindre pour elle. J'ai les bras tétanisés, ma femme est à côté, derrière un rideau vert, en train de lentement reprendre des forces. Je suis avec ma fille. Il me semble revivre cette scène avec une ribambelle de détails qui avait déserté ma mémoire. Un bonnet de laine, une épingle à nourrice, à la tête rose, ses petites mains parfaitement dessinées, mes crampes dans les épaules. La même pénombre ici et là-bas à l'hôpital. La sensation de la brièveté dans toute sa violence. Expulsion et surgissement dans le monde réel. Est-ce un cadeau des chamans magdaléniens qui m'offrent ce que je possède déjà? Je relève la tête. Anna s'est échappée. Je vois ma femme qui écoute avec attention les explications d'Hélène. J'en souris, avec reconnaissance. Nous avons répondu à l'impératif humain ensemble. Sans doute nous sommes-nous inconsciemment choisis pour cela. J'aime cette idée. Je me remets à scruter les bêtes des parois.
Superbe passage, comme il y en a beaucoup dans votre ouvrage. Et oui, alors donc cette appartenance, cette idée de faire partie de l'humanité, une image de la permanence aussi, hein, il y a des choses qui demeurent.
Oui, cette expérience, je veux dire, on est dans notre présent, forcément, avec la brièveté du présent qui n'arrête pas de changer, c'est la définition même du présent. Et en face, on a la sensation, en retrouvant ses passés, de la permanence du temps. Oui. Parce que le lieu n'a pas bougé, c'est comme s'il était le réceptacle d'une fausse éternité. Mais en tout cas, si on parle en siècle, pour nous, ça représente presque une éternité.
Bien sûr.
Et donc, j'essaie d'avancer un peu plus dans cette idée en faisant un parallèle entre ce moment où je suis dans cette grotte et où c'est quand même presque une sensation d'éternité. Et une exposition que je suis allé voir quelques temps avant ou après de Vermeer, ou qui est ce peintre hollandais qui a la magie de saisir et de bloquer le présent, le temps présent. Donc c'est la dentelière,
oui,
c'est
la verseuse,
c'est la femme à la perle, enfin bon voilà tout ça. Et voilà, et donc je fais un parallèle entre ce ouais. présent bloqué et puis cette éternité qui ouais, est offerte.
Tout à fait. Alors moi, contrairement à vous, je souhaiterais qu'on termine par la Villa Médicis. C'est extrêmement joyeux. Dans le fond, c'est un haut lieu de la culture et de l'art. Et puis, vous vous interrogez justement sur votre art littéraire, votre faculté d'écrire. D'abord, la Villa Médicis, c'est le charme.
La Villa Médicis,
racontez-nous.
J'ai eu la chance donc d'y passer 4 semaines pour écrire. Donc j'ai écrit en partie le texte qui est là sur la Villa Médicis, mais d'autres textes j'ai travaillé sur d'autres textes là. Et c'est effectivement un moment assez extraordinaire. D'une part parce que j'ai pas l'habitude d'habiter dans des palais, donc c'était la première fois. Mais surtout, vous baignez à un moment donné dans un endroit assez merveilleux. Et pareil, il est assez facile de penser à tous les gens qui ont depuis deux siècles traversé la villa, voire avant. Donc ce sont des peintres, ce sont des musiciens, Berlioz, Gounod, Debussy, voilà. Et vous vous dites, ben, ces gens-là, ils étaient au même endroit, c'est-à-dire forcément, ils ont parcouru les jardins.
Ils ont vu les mêmes choses.
Ils ont vu les mêmes choses, ça n'a pas bougé, les mêmes façades, voilà. Je m'appuie beaucoup, parce que c'est un auteur que j'aime, sur Chateaubriand, par exemple, qui... Et ambassadeur auprès du Vatican, et qui à un moment donné donne une fête qui a été représentée sur un tableau, et où ils se tiennent debout sur le seuil de la loggia, où je suis, où on passait systématiquement pour entre les jardins et le palais. Et vous vous dites, mais voilà, Chateaubriand, il était là, quoi. Enfin,
oui,
voilà. Et là, voilà, et je remets ma mécanique, si vous voulez, un petit peu en place.
Oui, alors vous vous dites, qui suis-je, moi, par rapport à Chateaubriand, quasiment? Oui. Et vous écrivez à vous-même, tu te dis écrivain, mais au fond de toi, tu penses surtout que tu es un usurpateur. Les livres publiés, les articles élogieux, les lettres des lecteurs restent impuissants, même s'il t'arrive de t'y accrocher pour faire taire les doutes. Tu te sens illégitime et les marques d'intérêt n'y peuvent rien changer. Tu n'es pas écrivain. Les écrivains s'appellent Proust, Dostoïevski, Kafka, Ross, Balzac. Ils sont rares. Tous les autres dont tu fais partie sont de pâles commentateurs du monde, des imitateurs, des poseurs qui jouent à l'écrivain, etc., etc. Mais j'ai ri en vous lisant, Alain Monnier, parce que, bon... Peut-être ne serez-vous pas Chateaubriand, mais ça, l'avenir nous le dira.
Je peux vous le dire d'emblée.
mais vous êtes écrivain, vous êtes écrivain.
Oui, alors c'est un petit peu cette quête qui est à la Villa Médicis, où petit à petit, je me dis, mais le fait finalement de passer des journées et des journées à écrire, à trouver une forme d'équilibre et d'apaisement, voire de consolation dans le fait d'écrire, fait que je peux dire que je suis écrivain, mais reste toujours quand même la statue des grands, des commandeurs.
Un peu écrasant.
Oui, c'est-à-dire que moi, au tout début, donc mon premier livre, je crois que je l'ai publié il y a maintenant 25 ans, si je regarde Balzac et Proust, jamais je n'oserais envoyer un manuscrit. Et je dis souvent, je crois que je le redis dans le livre un peu par plaisanterie, mais que c'est vraiment les mauvais livres qui m'ont aidé. C'est-à-dire quand je prenais un mauvais livre et que ça me tombait un peu des mains, je me dis, si ça c'est publié, ce que je fais peut l'être aussi, quoi.
Oui, oui, oui.
Et donc, ce chapitre sur la Villa Médicis, c'est un petit peu, mais je crois qu'on peut l'avoir et que c'est un sentiment qui peut être partagé. Alors, imposture est un mot un peu fort, mais...
Oui, je crois.
Le sentiment d'imposture qu'on peut avoir, c'est de dire, mais pourquoi j'occupe ce poste-là? Mais je crois que c'est pas propre aux écrivains, il y a beaucoup
d'artistes,
des fois, de gens qui peuvent
oui,
se dire...
dans certains domaines, oui.
Voilà, j'ai un éclairage, mais au fond de moi, je crois que je ne le mérite pas. Voilà,
c'est vrai.
Cette fragilité,
c'est
vrai. On va dire.
Oui, oui. Et vous dites à un moment donné, oui, quand tu écris, tu es écrivain, mais quand il faut te hausser du col et t'afficher, tu perds ton assurance et un sentiment d'imposture, si bien décrit par Belinda Cannon, qui est venue ici, à votre place,
d'accord,
d'ailleurs.
Et qui a fait un essai remarquable qui s'appelle justement « Le sentiment d'imposture ».
Ah oui.
Et c'est pour ça que je...
D'accord, que vous la citez.
Que je la cite, parce oui. que vraiment, c'est un très bel essai.
Tu doutes, tu voudrais des coups de tampon, des estampilles comme sur les passeports, quelque chose de solide qui valide et te rassure. Il te semble que le rideau peut à tout moment se déchirer, que quelqu'un va se lever dans l'assistance, te pointer du doigt et te demander de quel droit tu t'es invité à ce banquet où tu n'as rien à faire. Voilà, etc., etc. Et en final, alors là, il y a un passage aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. J'ai trouvé ce que je suis venue chercher, et davantage encore de manière inattendue. Le passé et la modernité, l'émotion des antiques mêlée à l'émotion du plus récent contemporain.
Oui, enfin, là, c'est en fait ça part de plusieurs sentiments. Le fait de vivre à la Villa Médicis, où il y a beaucoup de statues, et moi, cet art des statues romaines, etc., bon, je l'ai vu comme tout le monde. J'ai traversé des musées... presque au pas de course, parce que tout me semble pareil.
Parce que c'était des musées, voilà.
Oui, oui, mais même, voilà. Et le fait, ça c'était vraiment un étonnement de la villa, de vivre
au milieu
de ces statues, et tous les jours de passer devant elles, presque comme si c'était des gardiennes, j'ai eu
Un autre regard.
Un autre regard, ouais. Une proximité, et c'est ce que j'essaie de dire là. Et en même temps, je finis, je crois, le chapitre là-dessus, il y avait, au moment où j'étais, des présentations de ce que des artistes qui étaient en résidence l'année précédente avaient produit, et il y avait en particulier une vidéo, alors que moi, l'art vidéo, bon, c'est un peu nouveau, mais c'est pas toujours là, et qui était absolument remarquable, que je suis allé voir trois fois, qui était comme une caméra qui passe comme en Inde, et les gens, alors c'est un montage, je sais pas comment c'est fait, mais les gens ne bougent pas, et vous avez des longs travelling, et c'était très très émouvant, et ça c'était dans ce que je dis
comme
de l'art
contemporain.
Oui, comme des statues, à part que c'est des personnes vivantes, ouais. Qu'on attend, qui sont saisies sur un instant. Je ne sais pas trop comment c'était fait. Voilà, et donc c'était les deux, c'est-à-dire je réconciliais un petit peu ces cultures passées sur lesquelles j'ai peut-être plus de facilité de nostalgie, et puis des fois des choses très contemporaines qui, dès lors qu'elles vont creuser dans les mêmes sentiments et que ce n'est pas juste de l'affichage, parce que, fois, je suis un peu en retrait, on va dire, et que les deux se parlent.
Voilà, alors écoutez, on me dit qu'il faut que nous nous quittions. Évidemment, je me disais qu'il faudrait vous nous inciter à sentir l'esprit des lieux, parce que ça demande certainement une grande imagination. Vous avez beaucoup d'imagination, de sensibilité, d'empathie. Mais vous prenez le temps aussi, il faut y penser, hein,
oui,
se mettre à l'écoute.
Il y a une démarche, mais par contre, je reste persuadée, et je pense, enfin, les retours que j'ai aujourd'hui du livre font que je suis maintenant bien persuadée, puis on parlait de Notre-Dame tout à l'heure, nous tous sommes, alors pas sur les lieux que je cite moi, mais chacun a ses propres lieux d'intimité, les lieux qui vont le déclencher, sur lesquels il a une émotion particulière ou qui vont le bouleverser, mais que on est tous embarqués dans cette chose-là, et que et la géographie et l'histoire sont des morceaux du puzzle de notre personnalité. Alors bien sûr, c'est la société, la civilisation, enfin ou la famille qui nous structure, mais je pense que et l'histoire, le territoire d'où on vient, sont des éléments aussi
et ils nous apprennent à deviner ces présences invisibles qui vont au-delà de la nostalgie finalement.
Oui, c'est une forme de, je disais tout à l'heure, de cousinage. On en fait partie.
En fait, en terminant votre livre, c'est ce que j'en ai déduit. Je me suis dit, dans le fond, voilà, tout ça, c'est à nous. Ça fait partie de notre héritage.
Merci d'avoir eu cette conclusion. C'est vraiment ce que je souhaitais quand j'écrivais le livre.
Alain Monnier, un grand merci à vous. Merci. L'esprit des lieux, c'est le titre de votre tout nouvel ouvrage aux éditions Climat. Voilà. À bientôt.
Merci.